Ça y est, tu enregistres là ?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire. Grand prix du Festival Longueur d'onde en 2015, Tué appartient à ces œuvres qui sont le fruit de plusieurs mois passés lors d'une résidence à l'abattoir de bétail de Confolens en Charente. Tony Ayer envoie sur les docks en 2013, avec quelques photographies, ses lignes. Le tueur respire calmement et la vapeur chaude de sa vie s'échappe au dehors de sa bouche. Il monte en haut d'un petit escabeau, frappe le front de l'animal, alors que ses yeux l'aperçoivent au dernier instant. L'hiver se tait. À l'extérieur, dans les box, recouverts de paille, les vaches attendent. Tout est calme. La chaleur des bêtes, qui s'en mêlent pour se cacher du jour, qu'elles ont rarement vu, sonne comme un contrepoint au métal hurlant de la chaîne d'abattage. Dans le hangar, de petites enceintes et de la musique classique pour calmer les bêtes. Rien ne bouge lorsque l'on tue. Rien ne s'effondre, rien n'apparaît. Rien. Ni même la sensation que quelque chose s'élève ou s'en va.
Je me promène souvent. Moi j'aime bien ça. Moi. J'aime bien tout ce qui est désert, tout ce qui est plaine. J'aime bien tout ça. Moi. Que là tous les ans ça change un peu. On peut dire que tous les ans, en question de récolte, comment on parle de champ, question de récolte, ça change tous les ans. Il y a une année que ça sera peut-être du colza, d'autres du maïs, ou une autre année du blé. Donc c'est pas vraiment toujours le même paysage qu'on voit. Que là c'est désert, mais c'est pas pareil. Si on regarde au fond des nuages, là-bas, on dirait comme si tu voyais, tu imagines le ciel, où on est, imagine le ciel, et regarde les nuages là-bas, en face de moi, on dirait que c'est la mer. T'imagines que c'est la mer. Et ouais, t'imagines que c'est la mer et les nuages juste en dessus. Les montagnes, et tu vois les nuages juste en dessus. Le ciel en dessous.
De moi.
Combien?
Combien? Argumente?
Ouais, c'est con ce que je veux dire, mais pour moi, la femme parfaite.
C'est ça? Bizarrement, en fin de compte, moi j'ai embauché le 2 mai. Et quand je lui ai dit, on était encore amis, je lui ai dit, j'embauche le 2 mai. Mais il me dit, moi, ça fait 10 ans le 2 mai que je suis embauchée. Donc, on a 10 ans d'écart tous les deux d'embauche à la même date. Ça s'est fait un an et demi après. Quoi. Un an et demi, deux ans, oui, à peu près. Olive, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Mais tu vois, il est sourd en plus. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Voilà, ça va faire 6 ans, ça fera 7 ans, au mois de juin, je crois. À vue de nez? Ouais, à peu près. J'ai commencé à travailler, c'est simple, j'avais 11 ans et demi. J'ai commencé à travailler les étés. Donc j'avais été faire un été chez un photographe pour... Je faisais un petit peu de la vente, mais avec le patron, parce qu'à 11 ans et demi, on n'est quand même pas mature. Et j'allais chez ma grand-mère le soir, qui habitait à Confolens, donc j'allais chez ma grand-mère. Et puis, petit à petit, ça m'a emmenée à travailler, à connaître du monde. Après, on m'a proposé à travailler chez Demont, qui est une usine où c'est de la découpe de porc. Donc la première fois que j'ai été là-bas, sachant que moi j'aimais les animaux, ça a été très dur pour moi. J'aurais aimé être coiffeuse, donc je suis complètement à l'opposé de ce que je voulais faire. La vie m'a emmenée à travailler la viande, bizarrement. Ça va faire 8 ans que j'y suis. 8 ans que je suis à l'abattoir. Je pensais pas y rester aussi longtemps déjà. Parce que bon, c'est assez physique. Mais ça fait que aujourd'hui, bon, on est là. Demain, j'espère bien ne pas rester jusqu'à la fin de mes... jusqu'à la retraite à l'abattoir. Parce que bon, je pense que lui, il y resterait facilement, même si c'est un métier des fois physique et des fois il y en a marre. Mais je pense que pour moi, il changerait de vie pour moi, parce qu'il sait très bien que je ne tiendrais pas, jusqu'à la retraite. Quoi.
Bon, mais il va faire bon encore aujourd'hui. Oh putain, j'ai ce qui tombe. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une demi-journée de beau, tu vois plus où il va. Putain.
Si tu es mort, non, non. Mais depuis avant, je crois. Mais tu aurais pas arrêté de là à la porte, ça va être 30 ans. Hé, voilà le roi de la pêche.
Allez, salut.
Oh, c'est bon. On a chanté ce matin. La musique.
Oui, mais après ça s'arrange, j'ai regardé.
À partir de dans 15 jours, il tombe de la merde.
Ben oui, on les a vus là aussi. Voilà, voilà, donc c'est la vienne qu'on va en bas là-bas. Là-bas aussi, la petite maison là-bas qui est en bas, là, ça doit être pas mal être sympa, à bord de Vienne comme ça, apparemment. Enfin bon, je me dis quand il y a des crues, la Vienne est en crue. Et donc d'ici, on va à l'abattoir. Et le quai surtout, tout ce qui est des portes rouges là-bas.
C'est là-bas.
Je suis arrivé dans l'année 2001, au mois de mai 2001, 15 mai 2001. Je suis rentré à l'abattoir. Enfin, au départ, j'ai mis une bonne année pour m'y mettre, quoi. J'ai mis une bonne année pour m'y mettre, pour me pencher vraiment sur ce travail-là, quoi. Enfin... Parce que c'est quand même assez hard, quoi. Au départ, pour celui-là qui l'a jamais pratiqué, c'est assez dur. Hein. Ouais, j'ai mis une bonne année, ouais, pour m'y faire, hein, à ce métier-là. Quand je suis rentré, on commençait beaucoup de journées à 5 heures. Et on finissait à 14h30, ou 13h, ça dépendait le travail, quoi. À l'époque, on faisait de la chèvre, beaucoup de chèvres, énormément de chèvres. Je je me réveillais le matin, j'avais rêvé de l'abattoir, des chèvres, d'être sur le poste que j'étais. À l'époque, moi, j'étais au début que j'ai commencé, c'était la saignée à chèvres, quoi. Enfin, je voyais tous les jours, je faisais 1000 chèvres, quoi, et à tuer, quoi. Je veux dire, à égorger, à tuer, à saigner, donc c'était... j'en rêvais, quoi. Je rêvais du sang toute la nuit. C'était Olive qui était anesthésie. C'était l'anesthésie avec ce qu'on appelle une électronarcose, une pince, avec du courant dedans, comme une gâchette, quoi. Puis on mettait sur la tête de la chèvre, comme on fait actuellement pour les moutons, quoi. Sauf que maintenant, il y a un restriner, il y a un tapis. Et donc on met sur la tête de la chèvre et puis ça l'endort, quoi. Enfin, ça l'électrocute en fin de compte. Et après, ben, elle se trouve accrochée à une entrave par une patte. Et elle monte à un palan et après on la tue, on la saigne, quoi. Voilà. Et puis après, fallait que je coupe la tête en même temps. J'avais 27 ans.
Ça nous appartient. Ça va jusqu'à la haie là-bas, juste derrière la maison. Ça va être sympa là. Non mais là on peut rentrer. Regarde ce qui arrive.
L'arrache-cuir, en fin de compte, la bête est dépouillée un petit peu au niveau des pattes avant, et on prend une chaîne, on accroche en fin de compte les morceaux de la pâte qui a été dépouillée, le cuir qui a été dépouillé, on l'accroche à la chaîne. Et après, moi je suis pas aux commandes, mais celui qui est aux commandes qui est en face de moi, il actionne une manette et en fin de compte ça enroule le cuir, et après nous avec notre couteau on est obligé de suivre le cuir et la viande pour que ça fasse un beau dessin de la bête, quoi. Et après on met l'électricité pour pas qu'elle casse, voilà, il faut que le travail soit joli à voir.
Donc moi je suis le pilote parce que j'ai les commandes. Christelle est en face de moi parce qu'il faut forcément une deuxième personne parce que je ne peux pas faire le tour de la bête tout seul. Et donc on a deux chaînes qui sont fixées sur ce rouleau mécanique sur lesquelles on fixe des bouts de peau qui se trouvent à l'arrière de l'animal qui ont été au préalable découpé. On accroche ces deux parties de peau et après j'actionne ma manette pour que le rouleau tourne en descendant. Donc notre plateforme elle est située à, allez, on va dire 2,50 m de hauteur, et donc tout en descendant on roule cette peau pour dépouiller l'animal complètement.
Ouais, jusqu'à un moment où moi en fin de compte j'actionne en fin de compte l'électricité sur la bête pour éviter qu'elle se déchire, que ça lui tire trop dessus, que la viande se déchire, pour la soulager. Et en fin de compte, la bête se raidit complètement et on continue, Olivier continue à rouler jusqu'à temps qu'on ait dépouillé l'animal correctement. Je fais ça avec Olivier, mon futur mari, parce qu'on va se marier, donc voilà. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés, on se connaissait déjà avant l'abattoir, on était amis. Et l'abattoir nous a fait nous rapprocher de plus en plus. Moi, j'étais en fin de compte à la démédulation des chèvres. Donc, en fin de compte, j'enlevais la moelle épinière au biais, si tu veux, d'un tuyau.
D'un
aspirateur. Tu enfonces le tuyau et tu finis par aspirer la moelle. Et Olivier, lui, il était à monter les chèvres. Et si tu veux, comme.
Alors, monter les chèvres, c'est anesthésié.
Anesthésié, voilà.
On met une entrave à une patte et on accrochait ça sur un palan mécanique et ça partait sur la chaîne d'abattage. Voilà.
Pour les anesthésier, donc c'est une pince en fin de compte qu'on leur met sur la tête et ça les raidit et comme ça l'animal ne souffre pas. Donc après il l'accroche par la patte, par une chaîne et qui monte au palan et après ça part sur la chaîne. Une autre personne la saigne quoi, la bête. Et comme on faisait beaucoup de chèvres à cette époque-là, bah, c'est souvent que j'allais le trouver aussi quand tu avais un petit peu de temps, disant putain il en reste combien quoi. Une fois, on avait fait 1200 chèvres. Moi, à la fin, j'en pouvais plus. Hein. J'en pleurais tellement ça m'avait scié. Quoi. C'était un boulot physique. J'avais perdu, de toute façon, quand il y avait les chèvres, j'avais perdu plus de 10 kilos. Donc, c'est sûr que lui, il était en début de chaîne. Moi, j'étais plus en fin de chaîne. Mais il y avait une petite fenêtre où on se voyait. Donc, on discutait. Ça faisait 10 ans qu'on se connaissait avant, tant qu'amis.
Peut-être même pour le moins 15. Ouais.
Puis après, bon, les regards qu'on s'est lancés à l'abattoir, voilà, je te pousse et voilà, chicaner comme des enfants à l'école où c'est la même chose. Et on faisait notre travail et puis comme des fois on n'était pas l'un à côté de l'autre, et ben on cherchait du regard et puis voilà, c'est venu comme ça, tout doucement, naturellement.
Ça faisait le tronc d'une femme. L'arbre qui est tombé, ça faisait le tronc d'une femme. Et apparemment, il est tombé avec la dernière tempête. Mais creusé à l'intérieur. C'est mort et ça tient debout quand même. Mais t'as vu comme c'est creusé à l'intérieur ? On dirait de la terre. Comme si la terre avait remonté dans l'arbre. Là, tu vois des jeunes pousses à côté. Ça c'est des jeunes pousses, on comprend, enfin peut-être 3-4 ans. C'est des jeunes pousses à côté de l'arbre ça, ce que tu vois là. C'est-à-dire que la racine n'est pas morte, mais le tronc est mort. Non, je me pose pas la question. C'est un travail très physique même. Ouais. Faut avoir du mental et des nerfs d'acier pour travailler dedans. Ça c'est clair. Des nerfs d'acier. Ouais.
On peignait un peu dedans parce que moi avec mon père, on en fait plus ou moins dans des fermes. Donc moi ça m'a jamais bien dérangé de travailler là-dedans, de saigner une bête aujourd'hui. Ça m'a jamais bien dérangé. Parce que je savais ce que c'était déjà d'avance. Mais bon, disons que c'est à plus grande échelle et à plus grande ampleur, quoi. C'est pas du tout pareil que l'industrie. Et je sais qu'avec mon père, ouais, on a tué quelques-unes dans les granges et tout comme ça. Oui, ça c'est pas un problème. C'est pour ça que ça m'a jamais dérangé depuis le début. Hein. Même tout ce qui est agneau, les porcs, ça m'a jamais dérangé non plus. Hein. C'est instinctif quoi maintenant. Tu te poses pas la question. Quoi. Quand on assomme une bête, il y a un piège, ou que la bête est rentrée dans le piège, qu'elle ne peut plus ressortir ni re-rentrer, hein, on la serre si elle bouge de trop. Et on a 1/10 de seconde pour l'assommer. Quand tu l'assommes, c'est un pistolet qui c'est un matador, t'as une balle à blanc intérieur,
C'est un poinçon qui vient dans le pistolet, c'est pas une balle réelle, c'est une balle à blanc. Et c'est un poinçon qui sort du pistolet et qui assomme la bête. Et c'est du 3 tonnes au centimètre carré quand ça rentre dans la tête de la vache. Une fois qu'elle est assommée, t'as 3 minutes pour la signer. Elle sent rien. Pour les cochons, bon, ça, c'est le couloir, c'est pas le même couloir d'amènement qu'au bœuf, c'est un couloir plus petit. T'en emmènes 5-6 à la fois. Hein, bon, c'est un piège un peu plus petit que pour le bœuf. Pour les assommer, c'est une passe électrique. Alors t'as 5 secondes pour les anesthésier. Et c'est au bout de 5 secondes, ton porc est anesthésié. Et ça va directement sur la table à saigner. Et puis là, avec un troqueur, t'as 2 secondes pour saigner un porc. J'en passe en moyenne 200-250. Hein. Tout ce qui est bœuf et veau, j'en passe à peu près 50 le lundi. Il faut toujours être déterminé, faut être en contact toujours en permanence avec la bête. De façon que ça aille plus vite. Il faut que ce soit machinal. C'est toujours du contact, hein. Que tu le veuilles ou non, c'est du contact. Et une bête a toujours, même qu'elle soit bien assommée, elle bouge toujours un peu, mais c'est pour les nerfs, ça, c'est normal. Tu attends qu'elle arrête de bouger, tu l'entraves, parce que tu peux te ramasser un coup de pied ou autre. Hein. Si tu restes devant une bête, elle peut t'écorner ou te donner un coup de tête. Et puis c'est toi qui aura le mal, ça sera pas elle. Hein. Mais bon, tu fais attention, au bout d'une ou deux fois ou trois fois, en général tu fais gaffe. Hein. Tu recommences pas deux fois. Hein.
C'est surtout des pâturages ici, hein. C'est des terres d'élevage. Hein.
C'est des terres d'élevage, t'as beaucoup d'herbes, t'as beaucoup de chênes. Voilà, c'est très boisé. C'est des petites parcelles où t'avais beaucoup de moutons, après ça a été les vaches qui sont arrivées.
Il n'y a pas beaucoup de culture, c'est des terrains assez argileux. C'est des terrains où il y a beaucoup de rochers, de pierres, de choses comme ça. Donc t'as très très peu de culture ici. Hein.
J'ai l'impression de le faire depuis toujours. Déjà, c'est un poste qui est physique, donc c'est pas donné à tout le monde de le faire. Parce qu'il faut soulever l'animal pour l'accrocher à cette fameuse chaîne et le suspendre à un palan mécanique. Donc il y a une traction, donc il faut déjà être physique. Mais c'était mon poste depuis le début. Après, je me suis diversifié. Quand on fait ce genre de poste-là, chaque animal qui arrive à toi, il ne faut pas le regarder comme si c'était le tien. Il faut se mettre dans la configuration où c'est ton métier. Tu dois le faire. Tu dois faire ce pour quoi tu es payé. Et faut pas réfléchir. Forcément que tu réfléchis à partir du moment où un animal, par exemple, est réticent à arriver dans le piège de contention et où là, tu te poses forcément la question de dire est-ce que je le brutalise, est-ce que je le brutalise pas. Mais tu peux pas raisonner en disant... Faut pas regarder l'animal comme un animal, quoi. Il faut le regarder comme une pièce que tu dois travailler. Je sais que c'est dur, hein, ce que je dis, mais tu peux pas faire autrement. Sinon, tu fais pas ce métier. Tu t'en vas en courant. La vue du sang, la peur que tu lis aussi, quelquefois, quand ils arrivent, tu vois la peur qu'ils ont, hein, d'arriver là, en terrain inconnu. Ils sont, non, il faut vraiment le faire en étant détaché de ça. Sinon, tu peux pas faire ce métier. C'est pas possible. Il faut du détachement. Parce que tu le fais pas par vocation. C'est pas un métier que j'ai choisi par vocation. C'est un métier dans lequel je suis arrivé, j'y connaissais rien du tout. Et c'est un métier que j'ai appris à découvrir, où je trouve qu'il y a, même si ça paraît brutal pour les gens extérieurs, moi je trouve que c'est un métier aussi qui a son charme.
Si j'étais à sa place, je pourrais pas. Parce que si je croise le regard de l'animal, j'en suis malade.
Non, pas que moi, je vais aller plus loin.
Ah, moi, je veux pas me mettre à la place de l'animal parce que je suis malade. Je sais que à des moments, ça, c'est arrivé où il y a un animal qui s'en va. C'est pas moi qui vais le rattraper. Je me dis, il a raison.
Mais je te rejoins. Je te rejoins à travers ça. Mais ce que je veux dire, si tu réfléchis à l'animal qui arrive en face de toi, à ce moment-là, ça devient barbare. À ce moment-là, c'est barbare. Parce que du coup, tu réalises que l'animal, en arrivant là, il a du stress, de l'angoisse, de la peur. Et tu vas quand même faire ton geste. Et c'est là que ça devient barbare, moi, je trouve. Alors que si tu n'y penses pas, finalement, tu agis, je ne veux pas dire qu'on agit comme des robots, mais quelque part, tu as un détachement. Donc du coup, on se dédouane aussi un petit peu en se disant, ben, on fait ça parce qu'il faut le faire. Mais je trouve que si on ne pense pas à l'animal qu'on a en face de soi, pour moi, c'est plus sain que d'y réfléchir. Parce que sinon, je trouverais ça barbare. Parce que finalement, tu réalises à ce moment-là qu'à chaque coup de pistolet que tu vas donner ou chaque impulsion électrique que tu vas donner, si tu y penses, ça veut dire que quelque part, c'est une sorte de plaisir. Tu ne penses qu'à ça. Donc, pour moi, ça devient cruel. Ça devient je suis là pour tuer, je suis là pour tuer, je suis là pour tuer. Et moi, c'est pas ça. Je suis pas là forcément pour tuer. Je suis là pour exercer un métier. Et je sais que pour exercer ce métier, il faut que je tue des animaux. Mais c'est pas je tue des animaux pour satisfaire mon plaisir personnel. Je tue des animaux pour subvenir aux besoins de ma famille, pour gagner ma vie, pour voilà.
Mais ouais, c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut pas regarder, faut pas croiser le regard de l'animal.
Bah moi je vais aller plus loin que ça. Tu peux pas être en deuil des animaux. C'est comme si le gars qui travaille chez Renault, il est en deuil du gars qui s'est tué avec la voiture qu'il a sortie de son usine. Je veux dire c'est non mais c'est ça. Le gars, il sort des bagnoles, le gars se tue sur la route, il peut pas être en deuil de ça. Lui, on lui demande de fabriquer des voitures. Nous, on lui demande de fournir de la viande pour nourrir la population. On peut pas être en deuil de ça. Parce que quelque part, on tue des animaux, mais c'est pour en faire vivre d'autres, nous.
On enlève une vie. On enlève des vies.
Oui.
Faut pas y penser.
Non, moi j'y pense pas.
Moi, j'évite. Il faut pas que j'y pense.
J'y pense de temps en temps, moi. Mais, non, pas souvent, mais de temps en temps, ça m'arrive. C'est-à-dire, t'enlèves quand même des vies. Mais voilà, ça en reste là. Parce que si tu commences à gamberger là-dessus, t'en sors pas. Tu t'arrêtes le métier, tu fais autre chose. Mais...
Ah ouais, mais c'est dur.
Voilà.
Non, mais c'est des moments qui sont...
C'est sporadique, voilà. C'est vraiment sur un instant. Dans une semaine, c'est un instant comme ça. Ou paf, tu vas porter les yeux là-dessus. Mais autrement...
C'est pour ça que éviter les yeux des animaux.
Oui.
Voilà, de voir une vache avec les larmes, c'est pareil, c'est horrible. Ça me retourne. Donc c'est pour ça que j'évite d'aller à la tuerie. Parce que ça, je veux pas.
Elle est un peu timide, elle ne fait pas trop voir, mais je pense qu'il y a des fois, oui, elle est dégoûtée. Quoi. Non, je ne ferai pas ce que je fais, par exemple, à Olivier ou à Hervé ou à Johan. Alors, avec eux, je ne vais pas me gêner. Je vois un bout de peau, un bout de cuir. Je vois un collègue, rien pour le charrier. Pour dire, tu vois, je suis là. Si elle déjà me charrie pas non plus, elle me lance pas de bout de gras ni rien, t'es qu'à marquer, elle fait pas tout ça non plus. Hein. Alors. Même si j'aimerais bien des fois de temps en temps. Alors faut être joueur. Jusqu'à une limite. Qu'est-ce qui nous tient d'ailleurs? Le monde des abattoirs, c'est un monde à peur. C'est dur, faut se lever, c'est dur. T'arrives le matin, t'es là pour tuer les bêtes. Déjà à 5h30 ou 6h20 quand t'embauches, t'es là pour tuer les bêtes. On peut pas appeler ça une entreprise normale. Même si pour nous c'est normal. Tout le monde parle pire.
Ce qui peut paraître bizarre, c'est ce qui nous différencie avec Christelle, c'est que moi quand je suis en mode travail, je suis en mode travail. Tu vois, le matin quand je me lève à 4h ou à 5h, peu importe, mais je suis déjà configuré pour le travail. Je n'ai plus d'état d'âme. Une fois que j'arrive à l'abattoir, j'ai pas d'état d'âme, je sais pourquoi je suis payé, je dois faire un travail, et je le fais. Et Christelle, la différence entre elle et moi, c'est que elle a toujours ce côté sentimental, tu vois, que moi, pas du tout. Moi, je suis détaché complètement de l'impact que ça peut avoir sur n'importe quelle personne quoi, qui verrait ça de l'extérieur. Moi, pour moi, ma journée de travail, elle se finit quand j'ai posé ma cotte, je suis sorti de la douche et que je rentrais dans ma voiture. Là, c'est fini. Je vais redevenir le Olivier... cool, zen, amoureux. Et je vais même te donner une anecdote qui est rigolote, mais je m'en aperçois. Il n'y a pas longtemps que je m'en suis aperçu. Et Christelle s'est blessée une fois au travail. Et bon, ça paraissait assez impressionnant parce que c'était un gros bout de métal qu'elle s'est enfoncé dans la main. Et ben je n'ai pas réagi de la même façon que j'aurais réagi chez moi. Je la verrais aujourd'hui se blesser comme elle s'est blessée là. je serais peut-être paniqué ou j'aurais un coup de sang, tu vois. Je paniquerais et je m'inquiéterais. Dans le cadre du travail, elle s'est blessée. On a des gens chez nous qui sont sauveteurs, enfin qui ont des brevets de sauveteurs et tout ça. Et j'ai pas eu la réaction peut-être que j'aurais dû avoir vis-à-vis de ma compagne, parce que c'est quand même ma compagne, qu'on soit au travail ou qu'on soit dans la vie. Je me suis approché quand même pour voir ce qu'il y avait. C'est pas que je m'inquiétais pas, mais si tu veux, je sais pas si j'ai pas eu même ce moment de détachement, tu vois, par rapport à ça.
On avait un cochon, le premier cochon qu'on a fait à la ferme. On l'avait surnommée Nénette, elle était mignonne, c'était... voilà. Et l'issue finale, c'était pour qu'elle soit tuée. Ah bah alors là, ça a été un drame hein, pour moi.
Donc d'ailleurs, alors que moi, pas du tout.
Moi, ça a été un drame parce que il fallait, en fin de compte, c'est même moi-même qui l'ai emmenée pour éviter qu'elle soit bousculée en la grattant jusqu'à la tuerie parce qu'elle ne voulait pas avancer. Mais tu la grattais, elle venait partout. Et après, il a fallu que je la pèse. J'ai pleuré. Parce que ça me faisait mal au cœur, quoi. J'en étais malade. Parce que c'était un animal où je m'étais attachée. Il ne faut pas que je m'attache. Autrement, je ne peux pas. Ça a été très, très dur. Je l'ai emmenée jusqu'à la tuerie. Et j'ai dit, moi, je sais comment l'emmener. Tu lui grattais sur le dos et elle te suivait comme un petit chien. Donc je l'ai emmené, puis après je suis vite partie. Après ils l'ont tué, mais j'étais pas devant. Et
C'est moi qui l'ai tué.
Et je suis partie. Mais fallait pas lui faire de mal, parce que je veux pas.
C'est un York croisé France terrier un peu. Et puis donc ce petit chien est sorti de du buisson à côté de moi.
Ah, c'est moi.
On l'a récupérée, toute trempée, toute...
Maman l'a lavée.
Chez le béto après, elle n'avait pas de propriétaire ni rien. Mais bon, ça arrête pas, ça met de l'animation. J'ai deux chiens. Willy, chien. Et puis le dernier chien qu'on a trouvé là, Bella, femelle. Il y a deux brebis donc.
Il y a un gros chat.
Il y a un chat.
Un gros,
ouais. Et après, il y a quoi d'autre encore ?
Il y a des chevreuils, des renards.
Ouais.
Des lapins.
Des oies. Des oies, des poules.
Mmh. Des canards ?
Des canards, oui.
Non, il y a eu des canards,
oui,
il y en a plus.
Après, il y a quoi ? Des grues, tu veux parler
tout à l'heure. Dans la cuisine, il y a quoi dans la cuisine ? Que ta marraine t'a offert ?
Un
hamster ?
Un hamster et deux...
Octodons.
Ouais. Octodons. C'est des écureuils de Chili.
Là, c'est mes enfants. Donc, il y a Kylian, Clarisse et Clémence, les jumelles.
Et d'un camp, il est parti.
Puis bon, d'un camp, l'aîné, il est à Saint-Julien. Il n'y a rien de secret entre mes enfants et moi, même avec Elodie, ma femme. On n'a rien de secret, quoi, je veux dire.
Ah, il y avait une fois, on a tué deux cochons pour faire des boudins, de la rillette et... On l'avait tué dans l'atelier, le cochon.
En bas, en bas, derrière. Où il y a la voiture, là. On l'avait tué là-bas. Et puis après, on l'avait monté dans l'atelier. On l'avait fait griller, tout ça, puis on l'a monté dans l'atelier.
Ah, le cochon.
Et puis après, on avait fait des boudins,
des
arêtes.
Des pâtés.
Un peu tout.
Des escalopes, des côtes, on a tout fait, quoi.
C'est moi ?
Oui, mais toi, t'es quoi je veux dire, en matière, tu fais quoi tous les jours ? Tu égorges, tu enlèves la peau, tu fais quoi ?
Ben, j'enlève la peau et puis je saigne les cochons, c'est tout. Mais j'égorge pas.
Oh yo, c'est méchant.
Et j'enlève la peau sur les...
Sur les vaches ?
Sur les vaches, ouais. Je parfile
puis,
le cuir.
Et puis après, tu appuies sur un bouton et il y a une chaîne qui va à quelqu'un d'autre, par exemple, à François, je sais pas. Qui va à quelqu'un d'autre.
Ben
et
oui.
Puis après, lui, il fait le reste. Après, il fait appuyer sur le bouton et ça tourne en chaîne comme ça.
Thank you. À l'âge où j'ai commencé à travailler, c'était à l'âge de 16 ans, en apprentissage, en agriculture. Et puis après, je suis parti à l'armée à 18 ans. Au retour de mon armée, j'ai travaillé un peu en remplacement agricole pendant une année. Et à 19 ans, je suis monté travailler à Vincennes, aux autres Vincennes à Paris. Et j'ai passé un concours BAP 2 de recherche et de formation, éducation nationale, enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie. Donc. Et je l'ai obtenu, le concours de soigneur animalier. Et puis je suis resté 6 ans à Paris, aux autres Vincennes. Quoi. Voilà. Donc je m'occupais de tous les animaux du zoo, quoi, hein. Des éléphants. Du plus petit mammifère en allant jusqu'au plus gros pachyderme dans le monde, quoi. Mais après, quand j'ai fait ce métier-là, c'était après à un point... Il y avait un contact entre moi et eux, quoi. Je veux dire, puis dans la beauté de ces animaux-là, quoi. Et là, ce que j'ai entre les mains, en fait, c'est deux photos. Donc, une de Lyon et l'autre d'Arfang. Et ça, c'est des photos que j'ai prises quand j'habitais au parc, directement sur le parc. Et le soir, en plein été, quand il fait jour encore et puis que les animaux sont calmes, on avait donné à manger à la lionne. Et puis, j'ai pris la photo, en fait, quand je suis arrivé au niveau du sas du public, quoi. Puis qu'elle a vu ma tête. Elle croyait que j'allais aller lui piquer sa nourriture, en fait, compte. Pour elle, j'étais une proie. J'étais une proie. Et c'est une belle photo, quoi. Je me rappelle quand j'étais enfant chez mes parents, j'adorais les oiseaux, suivre les traces des oiseaux, même le gibier, quoi, enfin... Je travaille aux abattoirs, mais je serais incapable de tuer un cerf. Hein. Voilà, quoi. Ou une biche, ou un chevreuil. Hein. Je préfère autant le voir tellement courir. C'est tellement élégant, quoi. Que je pourrais pas le tuer, quoi.
Oh, il est mignon. Oh oui. Oh oui. Oh. Tu m'en rapports. Tu m'en rapports, non.
Ah, c'est bon.
Non, tu m'en rapports, je te dis. Tu m'en rapports.
C'est un cheval, il y a une vingtaine d'années, maintenant. Et je l'ai sauvé parce qu'ils s'en allaient justement à l'abattoir. Peut-être pas où moi je travaille, mais au moins à l'abattoir. J'aurais peut-être fini en lasagne. J'ai pu faire une bonne action pour un cheval. Bénévole. Sans nom, ouais. Oh, puis c'est mignon comme cheval. Oh, ben là, j'avais une bonne vingtaine d'années. 22, 23 ans. Quand je l'ai acheté. Ouais, c'est le sujet, ça fait 15-16 ans, je l'ai, donc ça doit être ça, j'avais 40. J'avais dans les 25 ans, quoi. Bon, il est un peu trop vieux pour le monter, maintenant je le promène, oui, l'été, je le promène avec son licol, puis je le fais promener sur le chemin. Tranquille. Bon, pour le monter, il est un peu trop vieux, quoi. C'est parce qu'il pourrait pas, mais bon.
Thank you.
Moi, je me suis aperçu tout au long de ces années où j'ai fait ça, que si tu le matin tu commences déjà en étant stressé, en étant agacé, en étant, on s'aperçoit que les animaux le ressentent tout de suite. Et c'est vrai que le fait de leur parler, de siffler, parce que on entend siffler des fois, on entend dire arrête ou là doucement, ou... mais c'est une façon aussi de, comment dire, c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais sur les derniers moments de cette bête, de se dire je vais pas en rajouter. Je vais pas rajouter à son stress le mien. Moi, j'ai pas de stress. Je suis là pour faire un travail. Forcément, j'ai une cadence à tenir parce que derrière moi découle aussi tout le reste de l'abattage. Mais le fait de leur parler, c'est aussi de se sentir un peu moins seul face à l'acte final qui est la mise à mort. Parce que tu te dis je me verrais pas voir arriver des animaux devant moi toute une matinée sans jamais dire un mot. Et juste tuer. C'est pas possible pour moi. Donc le fait de parler un petit peu, de siffler pour les calmer, tu t'aperçois que finalement, à l'arrivée, ça change rien pour l'animal. Quoique, on peut se poser la question, parce que on leur met de la musique dans les étables. Est-ce que ça a vraiment un sens et une psychologie animale? J'en sais rien. Mais tu t'aperçois qu'il y a des gestes aussi. Moi, je m'aperçois, si tu veux faire avancer des bêtes, tu as des gestes que tu fais et tu t'aperçois que ça va mieux que quand tu les fais pas. Donc, mais tout ça, c'est un apprentissage aussi. C'est un truc que tu apprends en le pratiquant. Et puis, moi, j'en ai tellement amené des bêtes, j'en ai tellement tué, que du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça devienne simple, pour que ça devienne, pas facile, parce que ce serait méchant de dire facile, mais pour que ça devienne simple.
Ben là, on va aller voir une fontaine.
Il faut que j'ai ma liberté, que j'ai mon espace. C'est trop, quoi. C'est comme ça. Hein. C'est même vital pour moi, quoi. Ah ouais, oui. Même là, dans le cœur, oui. Ah ouais.
Ça c'est à moi, c'est un tas de bois là.
Je l'ai fait là.
Du côté là.
Voilà la petite fontaine. Le ruisseau que je vous disais tout à l'heure qui coule. Qui rejoint la Vienne. Puis la fontaine qui est là.
Tout le temps
ici, elle est là, cette source, mais réellement elle n'est pas là, parce que là en fait c'est que le petit réservoir, elle sort d'ici, l'eau sort de là, mais elle suit une veine bien avant et on sait pas d'où elle vient. En fait, ça se trouve, elle peut venir de très très loin. Quand je pars de là-bas, que j'arrive ici, c'est comme si j'étais assourdi, quoi. Il me faut un petit moment pour entendre les bruits naturels, enfin les bruits des oiseaux ou autre chose, quoi. Je veux dire, c'est pas là. Quand on est en train de faire les ports, c'est là où c'est le plus bruyant. C'est la chaîne qui est la plus bruyante. Les ports qui cillent, pour pas grand chose, un port ça crie, ça cille. Déjà le cillement, c'est assourdissant. Et après au niveau des odeurs. C'est pareil, hein. Il y a une différence quand même entre sentir la végétation, les fleurs ou autre chose, et sentir le sang, la viande froide. Donc ça sent un peu la mort, quoi, on va dire. Dans les bouveries à bœuf, il y a de la musique. Ouais. Et ça, c'est pour éviter de stresser les animaux. Enfin, de stresser les vaches avant la tuerie, quoi, en fin de compte. Il y a de la musique, mais il pourrait y avoir autre chose aussi. Il faudrait que j'arrive à trouver un fond sonore naturel. C'est-à-dire, la vache, quand elle est dans un pré, elle n'entend pas la musique. Elle entend les chants d'oiseaux, le ruisseau qui coule, le tracteur qui passe sur la route, ou...
qui va à la ferme, ou l'agriculteur qui fait son travail, je veux dire, ou le chien, ou autre chose. Quelque part, c'est ça qui serait relaxant pour les animaux, pour éviter qu'ils stressent.
Allez, fille. Allez. Allez, hop. Allez, allez. Allez. Allez, hop. Allez, avance. Allez, avance, là-bas. Allez, allez. La lumière. Allez ma fille. Allez. Eh ben faut y aller. Allez. Non, t'as pas décidé. Comment on fait là si t'as pas décidé? Allez, avance. Allez, avance là. Allez. Allez.
Dans le cadre de mes activités hors travail, je fais donc beaucoup de tennis. Ça fait bientôt 20 ans maintenant que je pratique le tennis. Et donc, j'ai un ami qui est directeur d'un magasin sur Limoges. Et il a deux enfants qui sont jumeaux. Et donc, c'est des enfants qui jouent au tennis à Confolens. Et moi, je côtoyais ces gamins-là depuis des années. On se trouvait sur les tournois. Et un jour, je sais pas comment c'est arrivé, mais on se connaissait déjà depuis, je sais pas, peut-être bien une dizaine d'années. Et le gamin me dit, bah, de toute façon, avec le métier que tu fais, toi, je dis, quel métier je fais? Bah, il me dit, de toute façon, t'es prof de sport. Bah, je dis, pas du tout. Je travaille à l'abattoir à Confolens. Et je sais pas pourquoi, il s'est imaginé que j'étais prof de sport depuis le jour où il m'a vu. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait dire ça? J'en sais rien. Et pour moi, voilà, on n'avait jamais... Parce que c'est vrai que quand je suis en dehors de mon travail, à part si c'est un collègue qui passe à la maison ou qui vient manger, on va parler un peu de travail. Mais sinon, on ne parle quasiment jamais de notre travail, jamais. On essaie de se cultiver, on voyage, on s'ouvre l'esprit à plein de choses pour dire, voilà, les gens qui nous rencontrent, s'ils nous demandent ce qu'on fait comme métier, je veux qu'ils soient surpris. Je veux lire dans leurs yeux la surprise. Je ne veux pas qu'on dise, ah bah oui, forcément, vous travaillez à l'abattoir. Pour moi, ce serait un échec total. Moi, je veux que les gens qui nous voient à l'extérieur, qui nous connaissent ou qui nous connaissent pas souvent, je veux que les gens soient étonnés. Quand ils disent « qu'est-ce que vous faites comme métier ? On travaille tous les deux dans un abattoir. » Moi, j'aime lire la surprise dans leurs yeux. Parce que ça veut dire qu'on montre une image auquel ils ne s'attendaient pas. Et bien souvent, quand on va quelque part, que les gens ne connaissent pas... Tu vois, on a passé un week-end en chambre d'hôte il n'y a pas si longtemps que ça... Et donc, on est tombé chez des gens adorables, et le monsieur, la dame nous demandait ce qu'on faisait comme métier, on travaillait dans un abattoir. Ah ouais! Voilà, tu vois, ça j'apprécie, ça j'aime ça. Parce que les gens se disent, ah bah ouais, d'accord, bah, ils travaillent dans un abattoir. Et je veux pas qu'on dise non plus, ah ouais, bah vous êtes arrivé là comme ça, quoi. Non, moi je suis arrivé là comme ça, mais si je suis aujourd'hui, c'est que j'ai choisi d'y rester. Je suis pas resté là pour dire, je vais rester là parce que je sais pas quoi glander d'autre. Non! On est là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et son quotidien financier, forcément, mais aussi son intellectuel. Voilà, il faut pas rester spectateur de sa vie.
Après, c'est comme moi, si je dis que je travaille à l'abattoir, on me dit, t'es dans les bureaux, t'es secrétaire. Bah non, je suis sur la chaîne avec les gars.
Voilà, ça étonne toujours tout le monde.
Ça étonne toujours tout le monde. Parce que bon, j'ai pas la tête de l'emploi de travailler dans un abattoir.
Donc, quelque part, peu importe l'endroit... même si c'était en enfer, je l'aimerais. Je sais même pas si je me suis posé la question de savoir si on pouvait s'aimer dans ce contexte-là ou pas. Ou... Pour moi, ça a été... Si tu veux, ce que je disais tout à l'heure, je suis détaché de ce contexte-là. Parce que je suis conscient de ce que je suis. Donc, j'ai pas besoin de me projeter dans telle ou telle situation. Je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis capable de faire. Et donc, pour moi, quand cet amour entre nous a commencé à... Ouais, où je l'ai ressenti vraiment. Mais moi, même en enfer, je l'aimerais. Donc, que ça soit à l'abattoir ou dans une usine de chaussures ou dans ce que tu veux. Moi, c'est pour moi, c'est la même chose.
Un documentaire de Tony Ayer, musique Tony Ayer, réalisation Gilles Mardi-Rossian. Mixage Pascal Bénard, avec Sébastien, Olivier, Christelle et Hervé. Merci à mon père, Didier et les employés de l'abattoir de Confolens, le conservatoire Gabriel Fauré à Angoulême. Coordination Irène Omelianenko, Christine Gage, Eve Etienne.
Merci pour votre écoute. L'heure du documentaire est disponible en podcast sur le site de France Culture. Demain, ce sera Ni fleurs, ni couronne par Jeanne Robet.